Très bien, on va donc pouvoir commencer. Je profite évidemment de ce moment-là pour remercier les différents intervenants de cette journée. On est évidemment très heureux de pouvoir les recevoir aujourd'hui. Nous avons notamment Huimei Chen qui est juste ici à ma gauche et qui nous fait donc l'honneur de venir depuis Taïwan, où elle enseigne depuis quelques années maintenant à l'université Taipei et qui est une des grandes spécialistes de la musique de Taira aujourd'hui et qui fera donc deux interventions dans la journée. Une première qui sera donc plus consacrée sur cette musique d'une manière générale et une seconde qui sera plus ciblée sur la percussion, puisqu'évidemment cette conférence se veut aussi un préambule au concert de ce soir, où justement elle interviendra sur la percussion et cette dynamique du cri qui est évidemment très importante dans cette esthétique japonaise et dans la percussion en particulier. Nous avons également la très grande chance d'avoir Alain Poirier avec nous, qui interviendra plus spécifiquement sur la musique de Takemitsu, puisqu'il nous semblait intéressant sur cette journée de parler de ce grand compositeur qui est Taira, mais d'aborder aussi indirectement ce qui pourrait être certaines grandes trajectoires de la musique japonaise, avec une figure emblématique évidemment que représente Takemitsu, abordée, vous verrez, sous un angle tout à fait spécifique et inédit. Et puis, Alain Poirier, musicologue émérite évidemment, qui a eu la charge de diriger le CNSM de Paris il y a peu d'années, enfin il s'est arrêté il y a peu de temps. Jusqu'en 2009, voilà. Et puis Florent Caron, qui interviendra également ce matin, et qui, lui, sur la partie peut-être un tout petit peu plus contemporaine, qui s'est intéressé, lors d'un cadre d'une recherche à la Sorbonne en master, sur l'esthétique de la perception, puisque c'est quelque chose qui va nous préoccuper aujourd'hui, dans la journée, la perception et la réception, qui vont être évidemment deux éléments très importants aujourd'hui. Alors, je vais juste introduire un tout petit peu cette conférence avant de donner la parole à Huimei Chen sur sa première intervention. Je vais commencer de manière pas très orthodoxe, si vous me permettez. J'ai reçu il y a peu de temps un mail de Corinne Schneider, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger sur ces questions. Et qui m'a donc envoyé un message où elle me parle de Taira. Et dans ce court message, finalement, j'ai eu le sentiment que toute sa musique était là. Alors elle me fait partager son expérience d'instrumentiste, puisqu'elle était flûtiste. Bon, maintenant, pour les amateurs de France Musique, vous savez sans doute qu'elle intervient tous les mardis matins, dans le Matin des musiciens, qui est une très belle émission. Et je vais donc vous lire ce qu'elle me met, c'est quelques lignes qui me permettront d'introduire cette journée, de donner juste après la parole à Huimei. Donc je lui avais écrit, hein, je vous remets un tout petit peu le contexte, en lui parlant de l'organisation de cette journée, et voilà ce qu'elle m'écrit, donc un mail envoyé le 15 novembre dernier. À Taira, quel merveilleux souvenir que ces moments passés à travailler et jouer sa musique pour flûte. Effectivement, flûtiste. Elle aussi, puisque Huimei est aussi flûtiste de formation. J'ai quelques souvenirs anecdotiques. Taira nous impressionnait beaucoup lorsque nous étions étudiants au conservatoire de Boulogne. À la fin des années 80, au début des années 90, on jouait beaucoup sa musique dans cet établissement, car il y était professeur d'orchestration et surtout en tant qu'élève du flûtiste Pierre-Yves Artaud, qui était son grand ami et pour lequel Taira a beaucoup composé. J'ai pu jouer quelques-unes de ses pièces face à lui. Il ne parlait pas beaucoup et avait cette distance très asiatique. Mais il était d'une extrême sensibilité, à fleur de peau, et physiquement, on voyait et on sentait sur son visage que cela lui plaisait, si cela lui plaisait ou non. Soit son visage rayonnait, soit il était complètement fermé. Pour transmettre un caractère, une couleur, un tempo, une atmosphère, il utilisait beaucoup la métaphore avec les éléments de la nature. J'ai eu aussi le plaisir de jouer sa musique à l'orchestre de flûte, sous sa direction. Il ne parlait absolument pas au pupitre, il dirigeait, nous faisait travailler, reprendre, mais pour tout dire, je n'ai aucun souvenir de sa voix. J'ai le souvenir du physique androgyne de Taira, il passait, effleurait, traversait la pièce avec des pas feutrés. Il était presque invisible, finesse, délicatesse. Finalement, dans ces quelques lignes, il me semble qu'on a déjà certaines trajectoires de sa musique, je pense que Mien pourra vous le confirmer, ne serait-ce déjà qu'au niveau de cette expérience partagée, ne serait-ce qu'au niveau de la personnalité de ce compositeur. Et puis finalement, tout sur son rapport à la nature, sur aussi effectivement sa manière de concevoir la musique, sa manière de concevoir l'orchestration, sa manière de concevoir le paramètre sonore, on a finalement quelques éléments que je pense maintenant va pouvoir reprendre Hui Mei, donc dans sa première intervention où elle va vous parler de Taira et dans une perspective un petit peu plus générale. Et ensuite, donc cet après-midi, sur une intervention plus ciblée. Donc je donne la parole pour débuter cette conférence à Hui Mei Chen.
Merci Nicolas. Merci d'avoir pris l'initiative de cette journée rencontre. Et puis merci à Monsieur Claude Bouillonté et à toute l'équipe de l'organisation d'avoir organisé cette journée et concrétisé cette rencontre. Et moi-même, je suis très très honorée de pouvoir participer à cette activité qui appartient, qui fait partie de la célébration centenaire du lycée Livette. Et je suis très heureuse de pouvoir vous parler de la musique de Taïha. J'imagine que certains d'entre vous ne connaissent pas, même pas le nom de Taïha. Donc, je me permets de vous présenter un petit peu de ce personnage. Taïha est né en 1937 à Tokyo dans une famille musicienne. Son père faisait du jazz et sa sœur aînée est pianiste. Donc, jeune Taïha se baigna dans la musique occidentale dès son jeune enfance. Et puis, il est grand admirateur de Toru Takemitsu, le compositeur japonais le plus connu du monde, j'imagine. Et puis, de 7 ans, son aîné, il en suit les conseils et vit assez étroitement dans son village. Il sera pendant plusieurs années son traducteur en France. Ses liens amicaux ne se démentiront jamais. C'est pour cela qu'il nous sera fort intéressant d'écouter l'intervention tout à l'heure de Monsieur Alain Poirier, qui est l'auteur d'un ouvrage biographique et analytique sur Toru Takemitsu. Bon, la découverte de la musique française à la charnière du 19e et du 20e siècle, et particulièrement de cette Claude Debussy, déclencha un tournant décisif dans la carrière de Taïha. La découverte de la. Le choc pour lui fut d'entendre le cathédrale engloutie de Claude Debussy à l'âge de 16 ans. À partir de ce moment, il n'eut cesse de venir étudier en France. Ce désir fut rapidement renforcé par sa rencontre avec les musiques d'Olivier Messiaen et d'André Jolivet. Conduit par ce souhait, après avoir étudié la composition à l'Université nationale des beaux-arts à Tokyo, il obtient une bourse du gouvernement français et arrive à Paris en 1966. Au Conservatoire national supérieur de la musique de Paris, il a comme professeur de composition André Jolivet, Henri Dutilleux. Il assiste également au cours d'Olivier Messiaen. Encore étudiant, il reçoit des commandes et les créations se poursuivent. C'est Taïha. Donc, c'est pour ça qu'il a resté en France naturellement et retourne rarement au Japon. Les œuvres de Taïha ont créé dans le cadre des principaux festivals et d'autres institutions de musique contemporaine. Il est invité régulièrement en tant que compositeur de résidence pour donner des cours et pour assister à ses propres créations, en France comme en étranger. C'est le cas en 2002 par le Conservatoire de Nantes, où le cycle de ses œuvres, Hiérophonie, a été étudié et interprété. Enseignant de l'orchestration pendant quelques années jusqu'en 1993 au Conservatoire national de région de Boulogne-Billancourt, Taïha a assuré la classe de composition à l'École normale de musique de Paris depuis 1984 jusqu'à la veille de son décès en mars 2005. Alors, pour parler de la musique de Taïra, je pense qu'on peut comprendre pas mal de choses depuis ce titre. Dans l'œuvre de Taïra, les titres signifient beaucoup. À travers eux, nous pouvons avoir une idée de son évolution musicale. Ses œuvres d'avant 1968, l'époque d'apprentissage, portent des titres de forme musicale classique, comme vous pouvez voir dans ce tableau. À partir de 1969, l'époque où Taïra commence à composer le cycle de hiérophonie, il donne à son œuvre des titres plus originaux. Il les invente de sorte qu'ils n'aient pas un sens propre univoque, mais simplement qu'ils suggèrent. Il veut aussi que son titre ne comporte qu'un mot, un mot qui suggère tout, même s'il s'agit d'un mot composé. Dans le cas de Hiérophonie, titre inspiré du concerto pour violoncelle d'André Jolivet, dont le deuxième mouvement est intitulé Hiératique, le thème fait appel au grec ancien. Hiéro signifie sacré et phonos, le son. On trouve ici à la fois le son et le sens du sacré. Dès lors, Taïra montre souvent une volonté de forger son titre à l'aide du grec ancien qui lui confère un aspect mystique et symbolique. Les titres qu'emploie Taïra sont souvent révélateurs et peuvent nous servir à dégager de nombreux éléments de sa musique. Par exemple, l'évolution du style de Taïra est plutôt lente, progressive et pas toujours linéaire. Il est difficile de diviser les périodes de sa création par une distinction d'un changement soudain du langage. Lui-même parle d'une évolution naturelle. Ce titre étant, nous proposons une division possible qui consiste à considérer la série Hiérophonie, vous pouvez voir ici, écrite entre 1969 et 1975 comme le point de repère. Avant 1968, la plupart de ces pièces de cette période d'apprentissage ne sont pas éditées. À partir de 1969, Taïra a établi son style personnel et a commencé sa carrière de compositeur avec les hiérophonies. À nos yeux, c'est avec l'œuvre monumentale Méditation pour orchestre qui a été écrite en 1967 que ce compositeur commence une période très productive et a achevé plusieurs œuvres de grande formation orchestrale. Dès lors, son style est affirmé. Donc, la période d'apprentissage avant 1968, vous pouvez voir, il existe des mélodies qui a écrit d'après des poèmes contemporain japonais. Je vous propose d'écouter un extrait. Pardon, c'est un petit extrait, c'est d'une œuvre qui a écrit pendant sa période d'apprentissage, c'est-à-dire avant 1968, et c'est la deuxième pièce de Kikazu pour soprano et piano de Taïra. Et nous, on peut écouter... Vous pouvez comparer, c'est d'une pièce qui a été écrite en 2003, qui est intitulée Retour pour soprano aussi et petit ensemble instrumental. Est-ce que vous sentez de la différence entre ces deux pièces écrites pour soprano? La pièce qui a été écrite en 1963, qu'on avait écoutée en première, c'était plutôt classique, on va dire, pactorien. Et cette dernière pièce qu'on venait d'écouter, il y a beaucoup de caractéristiques chez Taïra. Par exemple, on a entendu un piccolo qui a joué avec le son, avec des hauteurs indéterminées. Ça nous fait penser à des flûtes de Nokan, de la flûte traditionnelle du Japon, etc. Et surtout, la première pièce qu'il avait écrite avant 68, c'est d'après un poème japonais, et cette pièce est chantée tout entier en japonais, mais cette dernière pièce retourne en 2003, et on peut distinguer au moins trois parties. Une première partie, le poème a été chanté entièrement en japonais, et deuxième partie, c'est un cri avec sans parole, et troisième partie, le poème est chanté entièrement en français. Donc, il y a une évolution très importante dans la vie créatrice de ce compositeur. Bon, on va passer pour les années du cycle hiérophonie. Donc, Florent, je pense, va vous parler un peu de la musique contemporaine au Japon. Et on peut savoir que le programme d'éducation adopté par le gouvernement japonais depuis l'époque Meiji ne permet pas aux jeunes japonais de connaître la musique de leur pays. Aussi, beaucoup de compositeurs japonais l'ignoraient. Nombreux sont ceux qui prennent conscience de leurs racines à travers l'Occident. Comme nous l'avons déjà évoqué, Taïra a grandi dans une famille de musiciens où il a baigné dès son plus jeune âge dans la musique occidentale. Il a longtemps refusé consciemment toutes les sources japonaises dans sa musique. C'est à Paris qu'il a découvert le Japon. Plus précisément, comme Takemitsu Taïeu, c'est à travers le théâtre Bunraku, un théâtre de marionnettes japonais traditionnel qui s'est produit au théâtre de l'Odéon à Paris en 1968 et auquel Taïra a assisté, qu'il a ressenti son japonais. Je cite, « C'était peut-être à cause de l'expérience d'avoir assisté à la représentation du spectacle Bunraku à Paris qui m'a fait beaucoup réfléchir, que ma musique devint plus japonaise, entre guillemets, en 1969. C'était l'année de Hiérophonie 2. Auparavant, j'étais plutôt néoclassique, pactorienne. » Fin de citation. Après une expérience de redécouverte de sa propre culture, Taïra a vécu une période de lutte intérieure et ses œuvres reflètent ce conflit où s'affrontaient la culture japonaise et occidentale qu'existe en lui. C'est grâce au cycle hiérophonie que ce compositeur a pu sortir de la période difficile. Taïra a affirmé dans un entretien, je cite, « Ce conflit culturel de la fin des années 1960 est à présent dépassé. Je pense écrire librement, naturellement. Chercher la nouveauté pour elle-même ne m'intéresse plus. J'aimerais que ma musique chante à présent très simplement. » Je suis sûre que mes prochaines œuvres pour flûte seront des auto-imitations. Elles peuvent ressembler à Hiérophonie 4. Ce n'est pas un problème. Fin de citation. Donc, la créativité de Taïra a atteint le sommet de son art avec l'accomplissement de Méditation, écrit en 1977 pour grand orchestre. précédé par Hiérophonie III en 1969, Chromophonie en 1973 et Sonomorphie III. Méditation est la quatrième pièce orchestrale. Cette pièce figure au cœur du catalogue du compositeur par l'importance de sa formation et la maturité de son écriture musicale comme de son orchestration. Les années qui suivent la création de Méditation sont des années très fécondes chez Taïra. De la même année, il a reçu une commande de l'ensemble intercontemporain et a écrit Transapparence pour orchestre de 29 musiciens, dédié à Pierre Boulez. L'œuvre a été créée par le dédicateur en 1977 avec le commanditaire dans le cadre du festival de l'IFCAM, passage au 20e siècle. Dans une conférence, Taïra a parlé de l'idée de la continuité dans sa musique en affirmant que, je cite, « la voie personnelle vers laquelle je marchais, je l'ai toujours approfondie ». Fin de citation. Avant de préciser que méditation est la prolongation de la pensée des hiérophonies, il serait donc bon de considérer cette œuvre orchestrale comme une sorte de résumé de ses idées musicales. Donc, pour parler de quelques caractéristiques de sa musique, on peut commencer par la nature, l'origine de la musique écrite sur commande. Presque toutes les œuvres de Taïra sont écrites à la suite d'une commande. Elles sont toujours créées en étroite coopération avec des interprètes. C'est ainsi qu'elles prennent en compte la réalité instrumentale et favorisent une recherche approfondie sur la sonorité et les potentiels des instruments. Ces musiciens passionnés du répertoire nouveau et de la musique de Taïra prennent soin d'affiner la partition. Ils apportent souvent des précisions détaillées en ce qui concerne la technique de leur instrument et contribuent ainsi à la notation avant l'édition finale. On peut dire aussi que c'est une musique au caractère intuitif. Je cite une citation de Taïra. Ce qu'est la musique pour moi, je me le demande souvent. Peut-être le chant instinctif, intérieur d'une prière qui me fait être. Autour de moi flotte une infinité de sons, dont certains me touchent plus intensément que d'autres. Commencer à faire de la musique équivaut alors pour moi à écouter vivre attentivement chacun des sons que j'ai retenus. Leur respiration engendre des mouvements spontanés qui se correspondent mutuellement et qui viennent s'opposer au silence qui est, lui aussi, il faut le reconnaître, doué d'un souffle de vie. Fin de citation. Cette déclaration, maintes fois citée dans plusieurs documents concernant Taïra, désigne des notions auxquelles le compositeur accorde une importance irremplaçable dans sa musique, telle le chant instinctif, la prière, le rapport entre le son et le silence, le souffle de vie. Mais c'est peut-être l'intuition qu'il a citée le plus souvent en tant que ses premières sources d'inspiration. Dans un entretien à la question suivante, en Europe, nous avons plus tendance à conceptualiser la musique qu'a fait appel à la spontanéité. Votre démarche, elle semble plus intuitive. Fin de citation. Taïra a répondu, à mes débuts, je faisais principalement appel à mon intuition musicale. Au fur et à mesure, mes recherches et mon travail de réflexion se sont affinés. Mais la spontanéité instinctive reste essentielle pour moi. Fin de citation. Une liberté existe à divers niveaux, tels les constructions formelles, harmoniques ou contrapuntiques. Sur le plan rythmique, une ambivalence existe toujours dans ces partitions entre les passages non mesurés faisant appel seulement aux couleurs sonores et l'emploi du rythme métrique. L'exemple musical proposé ici est la première page de Radiance pour piano solo et 13 instrumentistes, écrite en 1973, où est indiquée la durée en secondes qui donne un certain repère aux interprètes afin de faciliter le travail de l'ensemble, tout en leur suggérant une certaine liberté. On peut voir ici l'extrait de la Hiérophonie 5 pour cycle percussionniste. Dans nombre de ses œuvres, Taïra atteint souvent différentes écritures métriques. Les rythmes sont notés tantôt proportionnellement, tantôt par la médiation du solfège traditionnel. De même, Taïra ne note pas systématiquement ses tempi. Parfois, il préfère proposer la durée globale de toute une séquence. C'est donc à l'interprète de gérer la distribution interne des événements. Certains tempi sont cependant notés métronomiquement. C'est le cas de Hiérophonie 4 pour flûte. Dans les deux cas, il faut bien comprendre ces indications comme une proposition, un étalon et non un absolu. L'idée principale étant de ne pas faire de contresens et de préciser l'indication de caractère qui revêt une importance primordiale. Par une telle notation se manifeste un souci de mise en place pour les interprètes et une intention d'allier précision de l'écriture et improvisation contrôlée. À propos de sa notation métrique, Taïra affirme, je cite, « Je n'utilise des parts de mesure pour les musiciens, mais je recherche avant tout la souplesse rythmique. Je veux laisser une certaine liberté aux interprètes en comptant sur leur intelligence et sur leur sensibilité, même s'il existe un risque d'être mal interprété. De même, je ne place pas la double part à la fin de mes partitions comme pour que quelque chose d'autre vienne après. » Fin de citation. Donc, on peut voir dans cet extrait que la moitié de la part je laisse improvisée par les interprètes. Donc, c'est une musique aussi avoir une simplicité et virtuosité. Malgré sa recherche sur un son nouveau qui passe souvent par la voie de l'emploi de modes de jeu particuliers, Taïra veut toujours simplifier la notation de sa musique et souhaite que le mode de jeu utilisé soit accessible par tous, même s'il nécessite un certain niveau de maîtrise instrumentale. On trouve dans les pages de Taïra peu de commentaires sophistiqués, car il pense toujours que la technique d'écriture ne regarde que lui. Il considère donc inutile d'embêter les interprètes déjà sollicités techniquement. Sa notation est lisible et relativement simple par rapport à certains de ses collègues possédant une autre approche du texte, par exemple Brian Fernerau. On dit en français Fernerau, c'est ça?
Non, Fernerau.
Fernerau, c'est un compositeur anglais. On le considère comme un compositeur représentatif de l'école de la nouvelle complexité. Donc, Fernerau sollicite la concentration totale des interprètes afin qu'ils se dépassent eux-mêmes via la notation extrêmement compliquée. Quant à Taïra, il déclare, je cite, « Je n'ai jamais essayé de violenter inutilement les interprètes. La démarche de Brian Fernerau reste un peu énigmatique pour moi. À la réflexion, j'ai le sentiment de faire la démarche contraire. » Fin de citation. Pour éviter la confusion, il précise plus loin dans le même entretien, je cite, « Les pensées les plus complexes peuvent être transmises très simplement lorsque l'artiste domine sa technique. » De ce point de vue, je pense capital de bien différencier la simplicité du simplicisme que proposent certains compositeurs actuels, se recommandant du courant de la nouvelle simplicité. Plutôt que de complexité de l'écriture, il convient peut-être mieux de parler de richesse. Les niveaux de lecture et de compréhension d'une œuvre doivent être multiples très imbriqués les uns dans les autres, mais il faut toujours faciliter le chemin à l'interprète. C'est ma recherche personnelle. Fin de citation. Aussi, une simplicité relative hésite à la notation de Taïra, malgré la virtuosité instrumentale requise. Sa partition, notée avec clarté, permet aussi même aux enfants de jouer. Sa pièce, intitulée Flautissimo, écrite en 1988 pour orchestre de 30 flûtistes, a été en juin 2003 exécutée avec succès en concert par les élèves de la classe de flûte du Conservatoire de Rennes, parmi lesquels se trouvent de jeunes enfants. Cette partition n'avait pas été conçue dans un but pédagogique. Pourtant, les jeunes élèves l'ont réalisée sans difficulté, même les effets spéciaux comme le souffle et le cri. On peut comparer la partition de Brian Fennerhall et la partition de Flautissimo de Taïra. On peut voir très clairement les différences existent dans ces deux partitions. On parle souvent de la richesse de la couleur chez Taïra. Ce compositeur est très souvent décrit comme poète du son. L'intérêt qu'il porte à la couleur et au son l'entraîne tout naturellement dans une recherche très sophistiquée sur la sonorité variée des instruments. Au cours de la composition, Taïra travaille presque toujours avec les interprètes qui sont très engagés, passionnés par la découverte de la potentialité de leur instrument. Le compositeur et l'interprète expérimentent aussi ensemble des jeux variés. Cette interaction très fructueuse entre compositeur et instrumentiste leur permet de chercher un son nouveau et le résultat est souvent très satisfaisant. Le désir d'enrichir la couleur de sa musique entraîne non seulement le compositeur vers une recherche sur des effets spéciaux instrumentaux, mais aussi vers l'emploi de la voix et du cri des interprètes se mêlant aux sons instrumentaux. Cette utilisation est très fréquentée chez Taïra, surtout dans les partitions des années 70 et 80, notamment dans les œuvres pour percussion. Taïra exploite le cri des percussionnistes et développe de nouveaux modes de jeu instrumentaux comme les sons frappés, sons frottés et sons grattés sur une gamme d'instruments à percussion très variée. Dans ses œuvres pour harpe, les effets percussifs et les modes de jeu spéciaux rappelant les sons des instruments traditionnels du Japon ainsi que les sonorités très violentes du shamisen ou du koto élargissent sa palette de couleurs sonores, construisant aussi un univers très particulier et propre à Taïra. On peut écouter un peu Maya. Oula. La pièce a été commencée par un cri que c'est comparable avec la cinquième pièce de la série hiérophonie que nous aurons le plaisir d'entendre ce soir. Et on peut écouter un extrait du cinquième mouvement de la hiérophonie 4. Thank you. Oui, dans cette partition, on peut voir que l'interprète chante et joue en même temps. Ça crée une sonorité nouvelle. Ça donne une richesse de couleurs. Et un des principaux composants de la musique de Taïra, l'extrême contraste, se traduit par une volonté d'exploiter les limites de l'espace et du temps, de repousser les extrêmes au-delà. On remarque également une tendance croissante à concevoir l'étendue des idées musicales, non pas selon une tessiture prédominante, mais par rapport aux extrêmes graves et aigus du registre. Le contraste se manifeste dans la vaste variété des formations instrumentales, dans l'organisation de la construction formelle, dans la coexistence de caractères opposés. Par exemple, une partie très violente s'enchaînant directement à une partie très méditative. On pourrait s'étonner du changement d'univers brutal sans transition. L'opposition résiste encore dans l'utilisation des groupes d'instruments, le groupe aigu comme piccolo, flûte, hautbois, etc., versus le groupe grave comme contrebasse, flûte, basse, basson. Dans l'emploi du registre étendu de chaque instrument extrêmement aigu à extrêmement grave, dans la nuance du son inaudible jusqu'à la nuance la plus forte, dans la vitesse, une partie ajoutée aux notes d'une valeur très courte, voisine souvent avec une partie immobile au son tenu d'une valeur très longue. Nous allons écouter quelques extraits de la pièce pour orchestre Méditation qui a été écrite en 1977. C'est la fin du premier mouvement. Ça va enchaîner directement le deuxième mouvement. Taïra semble être conscient du caractère très opposé dans sa musique et il a évoqué à maintes reprises. Il a aussi répondu à M. Alain Poirier dans un entretien, je cite, « Il y a dans ma musique deux extrémités très opposées, un grand contraste entre une forme de violence et la méditation. Si je n'utilise pas deux éléments très opposés, je ne peux pas m'exprimer profondément. Si je ne n'utilise pas deux éléments très opposés, j'ai besoin de cette opposition. Le monde de la nature, comme le monde social, est toujours composé de deux choses. Le chaud et le froid, le bonheur et le malheur, l'amour et la haine, etc. Mais on ne peut jamais poser une frontière nette entre ces extrêmes. Inconsciemment, je sens cet équilibre. J'en ai besoin dans ma musique, mais je le ressens plus instinctivement que consciemment. » Fin de citation. On va apporter l'importance du rôle de la répétition existe chez Taïra. Cette répétition existe sous plusieurs formes, autour d'une note avec un groupe sous forme d'un bloc sonore. La répétition est récurrente dans les œuvres de Taïra. La répétition sur une note constitue un des principaux composants dans le cycle de hiérophonie. Mais c'est dans le cas dans le début du deuxième mouvement frémissant de Hiérophonie 4 de Taïra pour flûte seule. Cette utilisation est comparable avec le début du deuxième mouvement de 5 incantations écrites en 1937 pour flûte seule de son maître André Jolivet. L'étonnante similitude entre ces deux œuvres ne se limite pas à l'utilisation de la répétition d'une seule note pivot. Cet emploi se développe aussi dans méditation. C'est le début de la... Attendez. De la deuxième incantation pour flûte d'André Jolivet, on va écouter seulement un extrait. Graphiquement, on peut voir la similitude de cette partition de Taïra avec la partition de Jolivet. Même si la répétition, l'usage de la répétition occupe une place importante dans la musique de Taïra et ne possède pas cependant la même conception que celle de des compositeurs américains comme Philip Glass, c'est de l'école répétitive minimalisme. La répétition chez Taïra est plutôt proche de celle présente chez Jolivet ou chez le compositeur italien Celci. Elle est en relation avec le mythe, l'incantation ou la prière, mais elle est aussi liée à sa culture d'origine. Cet emploi réapparaît encore dans ses dernières œuvres, par exemple Retour pour soprano et petit ensemble instrumental en 2003, et montre aussi la continuité de la pensée du compositeur. L'ostinato, et on peut voir très rapidement quelques extraits de la répétition sur une seule note dans la partition de méditation pour orchestre ou dans Hiérophonie 1 pour quatre violoncelles. Ou dans la presque dernière œuvre de Taïra Retour. L'ostinato en tant que moyen de répétition est une des caractéristiques de la musique de Taïra. Il existe déjà, comme on a pu voir dans le cycle de Hiérophonie, où il a surtout été utilisé de façon impressionnante dans la cinquième pièce pour percussion, c'est-à-dire... la pièce qu'on va écouter ce soir. Et la 14 coups qu'on a entendu tout à l'heure, à la fin de méditation, du premier mouvement, se développe aussi dans le dernier mouvement comme le seul matériau constructif de la partie centrale, le point culminant. On peut peut-être écouter un petit peu. C'est pas ça. Ça, c'est le début. Bon, ça, c'est le début du premier mouvement. Ça, c'est le début du Hiérophonie 5. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps déjà. Je conclure que omniprésent dans l'œuvre de Taïha, la notion du cri est traduite dans méditation tout d'abord par le tutti du début qu'on a écouté tout à l'heure, dans la nuance fortissimo, exécutée par tout l'ensemble orchestral, puis par des coups de boutoir homorythmiques à la fin du premier mouvement qu'on a écouté au milieu de la communication, puis deviendra le personnage central du passage de climax du dernier mouvement au chant de terre. L'alternance sans cesse dans cette musique des éléments contrastés comme le cri et le silence est comparable avec les arts martiaux où le silence et le cri sont indissociables et les deux exigent une même concentration extrême. On a vu très rapidement quelques caractères représentatifs de la musique de Taïha, dont certains sont comparables à ceux d'autres compositeurs de son temps. Je crois que je vais laisser le temps à M. Poirier et nous allons apporter cet après-midi quelques caractéristiques montrant l'alliance des extrêmes en nous concentrant sur des exemples musicaux tirés des œuvres, surtout pour percussion. Je vous remercie de votre attention. Oui.